L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Simara. Mise en scène production Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. parce qu'il n'a pas supporté la disparition de sa mère, de ma mère, je veux dire. Et sans doute, ma mère s'est suicidée. On ne pouvait pas l'avoir au téléphone, il changeait constamment de numéro, et c'était des listes rouges. Et il renvoyait les lettres sans les avoir ouvertes. Il n'ouvrait à personne. J'étais retiré de Lyon. Sa mort m'a beaucoup attristé. Je reviendrai plus tard là-dessus. Oui, mon père. Une amie qui habite le Beaujolais est venue me voir plusieurs fois et m'a invité à passer la journée deux fois avec elle. La première fois, nous étions allés à Ouen voir les orques de Barbarie et aller chez une de ses amies, très gentille, puis manger au restaurant. La deuxième fois, nous n'étions que tous les deux. Chaque fois qu'elle venait me voir, elle me ferait des douceurs, je l'en remercie. Je remercie aussi ma famille qui a beaucoup fait pour moi et acheté des tas de choses, vêtements, etc. Pour remercier cette amie, j'ai voulu lui acheter quelque chose. Dur de trouver quelque chose là-bas. À Charnay, il n'y avait rien. J'ai enfin trouvé à Châtillon un chocolatier. Châtillon, avec son château, sa chapelle. Le château, on ne peut pas le visiter, c'est une propriété privée, et la chapelle est fermée. Le jour du départ est là. L'ambulance est venue me chercher à 13h45. J'étais triste et dit au revoir à tous. La femme qui conduisait ne connaissait pas Lyon et voulait que je la guide. Mais moi, je ne sais pas. Je marche à pied sans regarder le sens des voitures ni le long des rues. J'étais très ennuyé. Je me disais qu'elle allait me prendre pour un idiot. Alors à Lyon, je lui fais prendre le centre, les quais du Rhône, le pont Lafayette, le cours Lafayette jusqu'à la rue Garibaldi, puis la rue Barrier et la rue Louis Blanc. Je n'avais pas de clé pour la porte d'entrée. J'ai sonné au hasard, on m'a ouvert. C'est la femme qui s'occupe du commerce international et de Suisse qui m'a ouvert. Je lui ai dit ce qui m'était arrivé, elle ne le savait pas. Je rentre chez moi, tout bête. J'ai vu la vitre de la fenêtre brisée, les volets cassés. Défait mes affaires. Ma sœur avait lavé et repassé les chemises. Mon costume propre de la monnaie dans un sac plastique. Range mes affaires. Regarde le courrier. J'ai vu que des voisins, ayant appris ce qui m'était arrivé, me donnaient leur amitié, etc. Vidais mon répondeur, fais le courrier urgent, des courses, rencontre des voisins, leur ai dit ce qui m'était arrivé. Première nuit chez moi. Le lendemain, linge à faire, course, etc., etc. L'air de la ville m'étouffe. J'ai des difficultés à monter les escaliers. Essoufflement et mal à la poitrine. Un jour et demi après mon arrivée, je retourne au Tonkin pour un scanner et voir la réa, mon médecin. Je ne suis pas guéri. Il me dit qu'il va me laisser un moment tranquille jusqu'à l'année prochaine. Puis, en janvier, radio et réa. Je retourne à la radio faire mes émissions. Rien n'a changé. Je suis un peu perdu, mal à l'aise chez moi. J'ai fait changer ma vitre qui sera remboursée par mon assurance, 600 €. Le volet, non, 800 €. Que de choses à payer. La vitre et le volet a été dégradé pour une bonne intention. L'ami n'avait pas de nouvelles de moi. Alors, je suis à peine arrivé que le téléphone sonne constamment, que j'ai des tas de choses à faire. J'apprends des mauvaises nouvelles. La radio qui diffusait mon feuilleton va peut-être s'arrêter. Cela m'attriste et va me créer des problèmes financiers. Ce n'est pas la radio qu'il faudrait arrêter, et le cinéma qui est un crève-budget. On tue la radio pour faire continuer les cinémas. Ça m'énerve. Voilà, la vie reprend. Je suis essoufflé, tous un peu enrhumé, fatigué, mal à la poitrine, dort mal, peur de l'avenir. Que de problèmes. Là-bas, je n'étais pas essoufflé, pas de rhume ni fatigue. J'ai en novembre à enregistrer ma nouvelle émission et ça ne me dit rien. Ça va beaucoup me fatiguer. Que de problèmes, santé, mon père, les factures, les radios, mes écrits, etc., etc. J'aimerais être seul pour résoudre mes problèmes, mais le téléphone ne s'arrête pas, Guillaume et les autres. Cela fait plus de 15 jours que je suis chez moi, en tout 12 jours et demi, et j'ai déjà fait beaucoup, dont écrit tout ça. Fini le livre David Copperfield que j'avais commencé avant ma maladie. Je me lève à 6 heures tous les jours, marche 2h30, entre chez moi, lis ou écris ou fais des courses, monte 450 marches d'escalier avec de grandes difficultés respiratoires. J'ai peur pour l'avenir. Oui, j'ai peur pour l'avenir. J'ai été voir Péléas et Mélisande de Debussy à 20h30 à l'auditorium. Ça a duré de 20h30 à 11h30. Après, il y a eu un buffet avec le maire. Moi, je ne suis resté qu'une demi-heure. La version concert, avec une mise en scène vidéo et mouvement des chanteurs en costume, était étrange. Pour aimer ça, faut vraiment, comment dire, accepter ce genre de choses. Puis pourquoi mettre de la vidéo de partout? On en met dans les musées, on en met sur la scène, il y en a de partout. Ça sert à quoi? Moi, ce que j'ai aimé le mieux, c'est la musique. Et voilà, la vie reprend, tout doucement. Le 22 octobre 2007, à 5h du matin, j'ai fait un rêve étrange. je revenais d'Inde où ma mère m'avait envoyé pour finir mes études. Le soir, je n'avais pas pu m'endormir parce que j'avais oublié mes médicaments. Alors je me tournais et me retournais dans mon lit. Ma mère, furieuse contre moi, me dit d'arrêter. Je lui dis que je n'y pouvais rien. Après un moment, elle me donne de ses médicaments et plusieurs comprimés. Je ne sais pas si je dois en prendre un ou tous, alors j'en prends un. Mais ça ne me fait pas d'effet. Ma mère furieuse me dit que je n'ai rien appris en Inde, que je ne sais pas me tenir. Je ne suis pas comme les hindous. Je lui dis, tant mieux, parce qu'ils sont pouilleux, sales et incultes. Durant tout ce rêve, je sentais l'hostilité de ma mère et je ne comprenais pas pourquoi. Il y a des passages où j'étais encore en Inde et je regardais un film se tourner avec une petite caméra qui avait un pied en bois. Rêve étrange qui me donne une drôle de sensation, surtout due à l'hostilité de ma mère qui n'était pas contente de moi. Ma mère a disparu en début des années 80. Et je ne suis jamais allé en Inde. Pour ce qui est des films, je n'ai pas vu de films se faire, en tout cas en Inde, en France si. Aujourd'hui, mon père est mort en août, et le 22, nous sommes, ma famille et moi, convoqués chez le notaire. Aux yeux de mes parents, il y a toujours eu une incompréhension. L'on me disait fourbe, idiot, etc. Ma mère m'en a toujours voulu de faire des fugues. Mais j'étais bien jeune et malheureux. Elle croyait que je partais parce que je ne l'aimais pas, alors que c'était pour autre chose. Mon père aussi a toujours dit à ma mère que j'étais fourbe et qu'il fallait faire attention à moi. Ma mère est apparue dans mon rêve parce qu'elle ne veut peut-être pas que j'habite ou que je vende les biens de mon père. Pour ce qui est des médicaments, il est vrai que depuis 3 jours, je dors mal parce que je n'en ai plus. Pour ce qui est du cinéma, j'ai toujours rêvé d'en faire. Et je viens d'acheter un DVD d'un film qu'un ami a participé comme acteur et qui est producteur maintenant. Les Indes, je n'y suis jamais allé alors. Mais mon frère va partir au Chili. Peut-être une erreur de pays. Drôle de rêve qui m'a fait une sensation étrange, mal à l'aise, surtout à cause de ma mère qui me recevait mal. Elle m'en a voulu. Pourquoi ? Peut-être à cause de ces histoires de fugue. Pour le cinéma, peut-être les films de famille que j'ai trouvés chez mon père et que je regarde. Mon frère et mes 2 sœurs, nous sommes allés chez le notaire. Notaire qui en réalité est une charmante jeune femme. Nous sommes allés et elle nous a dit une chose. C'est que tout était bloqué, l'héritage était bloqué, les biens, on ne pouvait pas les prendre, ni les vendre, l'argent était bloqué, parce que, aux yeux de la loi, et sur tous les papiers, ma mère n'est pas morte, mais elle a disparu. Elle est toujours vivante, pour ainsi dire. Ma mère est toujours vivante. Donc, le notaire va être obligé, c'est de faire recommencer, après plus de 20 ans, 25 ans presque, les recherches sur ma mère. Le notaire va nous donner des adresses d'avocats avec leur prix pour faire ces recherches. Deuxième problème, mon frère qui a décédé il y a quelques années, il y a très peu, enfin, 3, 4 ans, je me souviens plus exactement, nous n'avons pas eu l'héritage de mon frère. Donc, la notaire va s'en occuper aussi. Ce qui fait que nous sommes bloqués. Ceci peut durer un an, comme ça peut durer plus, ou beaucoup plus, le temps qu'on ait des informations sur ma mère, le temps que ma mère ou officiellement décède, ou, si elle est vivante, et bien que ma foi, elle puisse hériter. Elle aura sa part. Tout ça, ça va nous ramener à des années en arrière, de grandes peines. Enfin, c'est comme ça. Tout est bloqué. Et les maisons qu'a mon père, on ne pourra même pas les louer. Je crois qu'il ne va pas rester grand-chose de l'héritage de mon père une fois que nous aurons tout payé. La vie reprend et fait peur. J'ai peur que l'on m'impose des choses, peur de vieillir, peur de ne plus être diffusé, peur de la maladie, peur de perdre ceux que l'on aime, peur de vivre. Fin du lever de rideau, place à la création. J'ai fini le 30 septembre 2007 à 11h d'écrire le lever de rideau. Début du résumé, le 20 mars 2007, avec le lever de rideau. Fin du résumé, le 10 mai 2007, avec de nombreux arrêts. Début d'écrire l'histoire, le 28 mai 2007, avec de nombreux arrêts. Fini d'écrire l'histoire, le 3 juillet à 8h20 2007. Début d'enregistrer au kilomètre l'histoire, le mardi 30 octobre 2007 à 6h du matin. Maintenant, place à la création. J'ai oublié de vous dire, c'est que ça fait 1027 pages pour l'histoire, 500 pages de résumé d'histoire et 65 pages de levée de rideau. Maintenant, rideau. L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Simara. Mise en scène production Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. à Paris, rue Saint-Jacques. La rue est déserte, sale et mal éclairée. Une femme, pauvrement vêtue, rentre chez elle. C'est l'hiver, il fait froid. Elle marche d'un bon pas. On entend ses pas sur le pavé. Tout à coup, elle entend des pas derrière elle. Elle sursaute. Continue à marcher, mais plus vite. Elle sent que l'eau la suit. Elle cherche à la rattraper. Elle panique. Se met à courir. Lui court après. Apeurée, elle se retourne et voit une ombre d'homme. La rue, mal éclairée, ne peut lui montrer plus. Elle continue à courir, essoufflée dans les rues désertes et étroites. Ses pas l'ont menée à un immeuble, vieil immeuble, sans âge, délabré de 3 étages. Vite, elle pousse la porte de son allée et entre. L'allée est noire. Elle appuie sur la minuterie, petite allée lugubre et qui sent mauvais. Vite, elle monte les escaliers de pierre usée. Entend le bruit de la porte. La porte qui s'est ouverte, ça a fait sursauter. Vite, elle monte jusqu'au dernier étage. Et prend fébrilement ses clés qui sont dans son sac pour ouvrir chez elle. Juste au moment où elle met la clé dans la serrure, une main lui touche le bras. Elle sursaute et s'apprête à crier. Une autre main se met sur sa bouche. Il est derrière elle et la plaque. Elle est effrayée. Chut. C'est moi. Il la lâche. Elle se retourne essoufflée et lui dit :
C'est toi, Jean-François, que tu m'as fait peur.
Je te demande pardon. L'on entre.
Oui, bien sûr. Elle ouvre la porte de son appartement. Éclair. Entre.
C'est sombre. Petit couloir avec 3 portes.
Elle ouvre la porte qui est en face de la porte d'entrée de l'appartement. Éclair.
Et ils entrent. C'est une assez grande pièce, aussi sombre, très sombre, avec un coin salon, coin cuisine, des meubles disparates. Ça fait pauvre, pas très propre. Une lampe est au plafond. Deux fenêtres, volets fermés, pas de rideaux. Contre mur, un radiateur ou gaz il ne fait pas très chaud. Elle le regarde bien. Il est grand, cheveux blonds, mal peigné, pas rasé, yeux bleus, visage doux. Porte un vieux manteau usé marine, un foulard rouge, pantalon gris et vieille godasse noire. Il est sale, poussiéreux, poussière blanche et des taches foncées sur ses vêtements. Elle lui demande « Que t'est-il arrivé ? Tu es dans un état, Jean-François ?» Il lui dit « Ce n'est rien, toujours la même chose. » Je n'ai rien fait. Elle lui dit, si c'est ce rien qui te met dans cet état,
ce n'est pas ma faute.
Je le sais. Déshabille-toi. Mets-toi à l'aise. Je vais en faire autant.
Et elle le quitte. Il quitte son manteau. Tombe de sa poche un couteau. Il est tombé à terre. Le ramasse et le remet dans sa poche. Pose le menton sur une chaise. Son couteau est en plus mauvais état que son manteau. Il a gardé son foulard rouge parce qu'il n'a pas de chemise. S'assoit dans un vieux fauteuil à cuir usé marron. La porte est ouverte. C'est elle. Elle est en robe de chambre crème. Dessous, il y a une chemise de nuit. Pantoufles blondes. Les cheveux tombants qui ondulent. Châtain. Elle est belle. Mais le regard triste, de grands yeux bleus, un long nez, visage allongé, va vers lui et lui demande « Tu veux boire quelque chose ?»«
Oui, j'ai très soif. »
Va dans un coin cuisine, prend une bouteille et deux verres. Va vers lui, s'assoit dans le fauteuil qui est en face, pose la bouteille et deux verres à terre, fait le service. Tiens.
Merci.
Et pose la bouteille à terre. Ils boivent en silence et lui demande « Pourquoi me voir fait si peur tout à l'heure ?»«
Tu as eu peur ?»«
Oui. »«
Je te fais peur ?»«
Non, pas toi, tu te sais bien. »« Mais
Si je savais, même si je savais que tu es dangereux, je n'aurais pas peur.
Pourquoi ?
Parce que tu me fais confiance. Et puis quelque chose m'attire chez toi. Pourtant, je ne connais rien de toi. L'inconnu m'effraie moins chez toi que chez les autres. Il lui dit,
malgré tout, tu as eu peur tout à l'heure.
Elle lui dit, pas de toi, de l'autre.
Quel autre ?
Celui dont on parle, la bête.
Je pourrais être cette bête.
Si c'est toi, je n'aurais pas peur.
Pourquoi ?
Tes yeux.
Quand mes yeux ?
Ils ont une lumière.
Il sourit et lui dit, je suis là. Je peux dormir chez toi.
Qu'as-tu donc fait ?
J'ai traîné.
On le voit, tu es tout seul. Tâche de quoi ? On dirait du sang. Il lui dit,
le sang qui coule, c'est la vie qui passe. Je peux donc, ici, dormir.
Bien sûr, Jean-François.
Tu n'as pas peur ?
Non, tu es déjà bien. Tu as déjà bien couché ici.
Il lui sourit. Ils se lèvent tous deux. Après avoir posé leur verre au sol, sur le sol, il lui demande, je couche où ?
Ici. Autrement, je ne serais plus ta petite sœur. Et là, je commencerai à avoir peur. Je vais te donner une couverture. Tu t'enrouleras couché dans le fauteuil. Elle sort de la pièce. Revient avec une vieille couverture en laine rouge.
Tiens, merci.
Bonne nuit. Il lui répond,
bonne nuit, cruelle Armance.
Pourquoi cruelle ? Parce que je ne veux pas être ta maîtresse, mais je le fais plus pour toi que pour moi. Où iras-tu si je n'étais plus ? Bonne nuit. Elle laisse. Il s'enroule dans la couverture et se met dans le fauteuil.
Il a chaud, il se sent bien, ferme les yeux. Il entend de temps en temps des pas. Des pas dans la rue. Puis finit par s'endormir.
Il entend de temps en temps des pas dans son rêve. L'on court dans la nuit, les rues désertes.
des cris de femmes, du sang qui gicle. Il ne sait pas, il ne sait plus. Il a été réveillé en sursaut. C'est Hermance qui lui a donné une tape sur le bras. Se disent bonjour et lui demande s'il a bien dormi. Et toi, tu as eu peur?
Non.
Prennent leur petit déjeuner.
Ils parlent peu.
La vie est dure.
Je sais. C'est étrange. J'ai confiance en toi, mais je ne sais rien de toi.
Il lui dit.
Ça vaut peut-être mieux.
Je ne connais que tes yeux.
Quand mes yeux,
ils sont purs.
Pour toi.
Juste avant de quitter l'appartement, elle va travailler, faire des ménages chez une vieille pie. Elle lui demande ce qu'il va faire. Il lui dit,
qui sait ?
Puis se sépare dans la rue. La rue est plus lugubre le jour que la nuit. Les gens sont sales, tristes. Ils marchent sans se presser. Un clodo lui demande une petite pièce.
Non, le clodo lui dit, t'es pas chic toi.
Jean-François lui dit,
je n'ai pas à être chic. Fous-moi la paix. Disparaît.
Il regarde bien. Le panique recule. Ah ! Et il a été renversé par une voiture. Jean-François continue son chemin en disant,
c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Ça devait arriver. Ça devait arriver.
Pardonne-moi, Père Jésus.
Là-bas.
J'ai entré dans un café. Un bistrot.
Il va à la banque un verre de vin. » Le bistrotier lui dit, « File, je n'aime pas que tu traînes ici. Tu portes la poisse. Dédé a perdu le ticket de son tiercé gagnant une fois qu'il s'est disputé avec toi pour une histoire de tournée. Ginette s'est cassée la jambe en te courant après. » Jean-François lui dit, « C'est pas moi. Elle était ivre. J'aime pas les gens ivres. » Oui, j'aime pas les gens vives. Allez, je te paye un verre et tu t'en vas. Merci. Il boit son verre et sort. Une femme entre dans son allée. Jean-François aussi. Elle monte les escaliers. Ouvre la porte de son appartement. Tout d'un coup, elle est poussée chez elle. Tombe à terre. Et on la tue à coups de couteau. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Si Marat, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.